adaptations, le balado du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. Lorsqu'on parle des comportements des tout-petits de notre entourage, il nous arrive souvent de parler de son bon ou encore de son mauvais tempérament. On va souvent dire qu'un tel a vraiment un mauvais tempérament pour faire référence à un enfant qui est très actif, têtu ou parfois même colérique. Mais est-ce que notre façon de concevoir le tempérament colle bien à la réelle définition de ce concept? Car bien qu'on ait une certaine facilité à parler du tempérament d'un enfant, je me demande si notre conception intuitive du tempérament correspond bien à sa notion théorique. Pour mieux comprendre ce qu'est le tempérament et son rôle sur le développement de l'enfant, nous discutons de la question avec Jean-Pascal Lemelin, qui est membre chercheur régulier au GRIZE et professeur agrégé au département de psychoéducation. Bonjour Jean-Pascal, bien heureuse de t'avoir avec nous en studio aujourd'hui.
Bonjour Lauriane, ça me fait bien plaisir d'être ici et d'avoir l'occasion de discuter tempérament.
Donc Jean-Pascal, on te reçoit aujourd'hui justement pour discuter de la notion du tempérament et de son rôle dans le développement de l'enfant. C'est un sujet sur lequel tu t'es intéressé là, depuis déjà plusieurs années. Donc pour commencer, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que le tempérament?
Je débuterai par dire que le concept de tempérament a une longue histoire, un long historique. En fait, déjà, les philosophes grecs, à l'époque, discutaient de tempérament, avaient mis en place une espèce de modèle du tempérament à l'époque. Puis, le tempérament est tombé un peu dans l'oubli là, pendant quelques siècles, puis est réapparu au milieu du 20e siècle. C'est là où on a recommencé vraiment à s'intéresser de près au tempérament dans une posture scientifique, là, avec les études de Thomas et Chess. Puis pendant quelques décennies, il y a eu des débats, là, à savoir justement bien, qu'est-ce que c'est le tempérament, qu'est-ce que ça comprend, où ça commence, où ça s'arrête, etc. Aujourd'hui, quand on parle de tempérament, là, on réfère spécifiquement aux différences entre les individus, là, entre les enfants, les adolescents. Moi, je vais dire ça plus souvent parce que c'est mes populations d'intérêt là, en termes de recherche, mais ça s'appliquerait à tous les individus, dans la manière de réagir. Donc, de réagir aux événements de vie, de réagir aux situations nouvelles, de réagir aux situations nouvelles qui sont potentiellement stressantes et ou frustrantes. De réagir au comportement des autres. Il y a vraiment un aspect de réactivité là, qui est à l'avant-plan dans la définition moderne du tempérament. On réfère vraiment à la réactivité de façon large. Donc, tout ce qui est stimulation sociale, mais aussi toute forme de stimulation non sociale. Donc, vraiment, là, on va voir des différences entre les personnes dans la manière d'y réagir. Puis c'est la première grande composante de ce qu'on appelle le tempérament aujourd'hui. L'autre dimension, c'est ce qu'on appelle l'autorégulation. Donc, c'est comment on va gérer cette réactivité-là, comment on va la contrôler, l'atténuer. Donc, ça, c'est l'autre grande composante du tempérament. Fait que c'est vraiment des différences individuelles dans la manière de réagir en intensité, etc., mais aussi dans la manière de gérer, de négocier cette réactivité-là. Quand on parle de réactivité, on parle de réactivité à différents niveaux. Donc, au niveau émotionnel, bien sûr, mais aussi au niveau moteur, comportemental, physiologique. Donc, c'est vraiment la réactivité sur ces différents plans-là. Puis, quand on parle de régulation, on parle aussi de régulation, par exemple, au niveau comportemental, mais il y a une dimension attentionnelle qui s'ajoute. Donc, il y a des stratégies attentionnelles qui vont être utilisées par des enfants, par des individus pour gérer cette réactivité-là. Donc, moi, je m'intéresse à ces différences-là à travers toutes les périodes de développement. Donc, j'ai commencé à m'intéresser au tempérament chez les tout-petits. Mais au gré des ans, je me suis intéressé au tempérament vraiment dans une perspective à travers tout au long de la vie, qu'on pourrait dire. Donc, je m'intéresse vraiment à ces différences-là à travers toutes les périodes développementales, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Et surtout, comme tu l'as mentionné en introduction, quel rôle ces différences-là jouent dans le fond dans le développement humain et dans l'adaptation des personnes.
Concrètement, est-ce que tu aurais un exemple qui permet de mieux illustrer dans le fond c'est quoi le tempérament?
Le tempérament, d'abord, ce que je dirais, c'est que c'est un concept qui est multidimensionnel. Puis, c'est un concept qui est évolutif aussi, donc qui évolue avec l'âge. Donc, les dimensions qui sont présentes à la petite enfance, par exemple, il y en a certaines qui vont demeurer pertinentes tout au long de la vie, mais il y en a d'autres qui vont être spécifiques à la période de la petite enfance. Puis, il y a d'autres dimensions qui vont apparaître un petit peu plus tard là, avec le développement, avec la maturation du cerveau, etc. Par exemple, une dimension du tempérament qui est présente tout au long de la vie, c'est la prédisposition à la peur. Donc, ça, c'est une dimension qui est là de façon constante. Puis, on peut voir des différences entre les enfants très tôt en lien avec cette prédisposition-là. Un exemple concret qui me vient en tête à l'approche du temps des fêtes, c'est la classique visite au Père Noël ou la visite du Père Noël. Puis, vous le savez, il y a certains jeunes enfants qui vont être ravis là, de pouvoir s'approcher là, du Père Noël, de pouvoir s'asseoir sur ses genoux, de pouvoir lui parler, de pouvoir lui dire qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir à Noël, etc. Ils vont exprimer des affects positifs. Ils n'auront pas de malaise, ils n'auront pas de crainte. Ils vont être très joyeux d'être là. Puis d'autres, au contraire, vont être très malheureux dans cette même situation-là. Je suis sûr que vous avez des exemples en tête. Ces enfants-là vont pleurer, vont exprimer de l'inconfort, vont vouloir retourner rapidement dans les bras du parent. Ils ont pas de plaisir, là. Ils ont juste hâte d'en terminer, d'en finir, puis de s'éloigner de cette source, de cette source-là qui leur crée de l'inconfort puis de la peur. Il y a plusieurs autres exemples qui pourraient être décrits, car comme je le disais, selon la période de développement, on identifie entre 12 et 18 dimensions tempéramentales. Fait que ça, c'est ce que je veux préciser aussi au passage. La prédisposition à la colère et à la frustration est un autre exemple d'une dimension. L'impulsivité, l'attention soutenue, la recherche de sensations et la prise de risque aussi, qui est une dimension tempéramentale, donc qui permet de différencier les personnes. Par exemple, si je te pose la question, Lauriane, est-ce que ça te tente d'aller sauter en parachute demain?
Pas sûr, non.
Non, tu ne l'as jamais fait, tu n'envisages pas de le faire?
Non, aucune envie.
Donc, c'est ça. Alors, si on propose ça à une centaine de personnes, on va en avoir qui vont dire oui, je peux-tu y aller tout de suite? Puis il y en a d'autres qui vont dire je ne pense pas que ça va arriver dans cette vie-là, puis pas dans la suivante non plus. Donc, ça, c'est la dimension prise de risque. C'est la dimension de recherche de sensations. C'est une autre dimension tempéramentale. Fait qu'on peut voir que sur cet élément-là, mais les adolescents, les enfants, les adolescents, les adultes vont évidemment se distinguer. La timidité, par exemple, c'est une autre caractéristique tempéramentale qu'on observe assez jeune. Certains enfants ou adultes vont faire de l'insomnie, par exemple, à l'idée de réaliser un exposé oral devant un groupe ou de prendre la parole en public. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus extravertis, qui vont être à l'aise comme des poissons dans l'eau là, dans ces situations-là, puis qui vont même les rechercher. Là. Ils vont chercher des occasions de prendre la parole en public là, puis de pouvoir faire ça. Enfin, je dirais qu'il y a des enfants qui vont montrer un très haut niveau de ce qu'on appelle le contrôle inhibitoire. Donc, le contrôle inhibitoire, bien, c'est la capacité d'attendre son tour, par exemple, dans une file d'attente, de rester assis si on nous le demande, de pas émettre un comportement qui pourrait être vu comme inapproprié dans un contexte donné. Donc, tout ça, c'est vraiment ce qu'on appelle le contrôle inhibitoire dans la recherche ou dans le domaine du tempérament. Parce qu'il y en a qui vont être capables de faire tout ça, mais il y en a d'autres qui vont avoir un mal fou là, à répondre à ces directives-là, puis ils vont même pas être capables, dans certains cas, de s'empêcher de produire le comportement là, qu'on cherche à éviter. Là. Un exemple classique, un plat de bonbons, par exemple. On a des jeunes enfants, on va dire aux jeunes enfants, bien, touche-y pas tout de suite. Bien, il y a des enfants qui vont répondre parfaitement à cette demande-là, puis il y en a d'autres que dès qu'on va avoir le dos tourné, ils vont avoir les mains dans le plat de bonbons. Donc, ça, c'est un dernier exemple là, qui illustre des différences tempéramentales. Puis ça, c'est évidemment un exemple qui est plus spécifique à ce que j'appelle l'autorégulation comportementale. Là. Donc, tantôt, on parlait d'éléments qui permettent de négocier la réactivité, là, mais ça, c'en est un exemple.
Aussi, il y a longtemps, la recherche s'est penchée sur les trois dimensions là, du tempérament. Aujourd'hui, comme tu as dit, il semble avoir une exploration là, du tempérament dans un contexte qui est plus raffiné. Peux-tu nous parler un petit peu là, de ces développements récents-là sur le concept du tempérament?
Puisque les études des 20 ou 30 dernières années, peut-être, ont montré, c'est que ces dimensions-là pouvaient être regroupées fréquemment en ce qu'on appelle, nous, trois grands facteurs tempéramentaux. Donc, le premier de ces grands facteurs-là, c'est l'émotivité négative, qui est un facteur qui regroupe, là, par exemple, les dimensions de prédisposition à la peur, à la tristesse, à la colère, etc. Il y a un deuxième grand facteur qui est l'extraversion. Donc, l'extraversion, c'est un facteur qui reflète davantage la réactivité au plan comportemental. Donc, l'impulsivité, la prise de risque, on en a parlé tantôt, le niveau d'activité moteur, la sociabilité versus la timidité, etc. Donc ça, c'est comme un deuxième facteur qui regroupe un ensemble de dimensions tempéramentales. Puis le troisième, bien, c'est le facteur de l'autorégulation, donc qui intègre ce qu'on a mentionné tantôt, là, le contrôle inhibitoire, l'attention soutenue, donc la capacité de porter son attention longtemps sur quelque chose ou de détourner son attention d'un stimuli qui nous fait peur pour porter attention sur quelque chose de plus plaisant. Ces trois facteurs-là, ont souvent été utilisés dans les études pour des motifs de faisabilité. puis ou de disponibilité des outils de mesure, ou parce que les connaissances étaient encore insuffisamment développées pour soutenir des hypothèses plus spécifiques. Fait qu'on s'est arrêté sur l'un ou l'autre de ces grands facteurs-là, puis c'est ce qu'on a étudié, c'est ce qu'on a, dans le fond, mesuré puis utilisé dans les études. Le next step, ou la prochaine étape, vraiment, c'est de préciser ces résultats-là qui sont au niveau de facteurs plus généraux pour les rendre encore plus utiles au plan scientifique puis au plan pratique. Par exemple, dans une étude récente que nous avons menée là, dans le cadre de la thèse de doctorat d'Elisabeth Harvey, qui est une membre externe au GRISE, que j'ai eu la chance de superviser là, au doctorat en psychoéducation en collaboration avec le professeur Michel Derry, on a montré que les différences entre les enfants au début du primaire au niveau du facteur d'extraversion étaient prédictives du niveau de conflit dans la relation élève-enseignante. Donc, les enfants qui étaient les plus extravertis étaient ceux qui avaient davantage de conflits avec leurs enseignantes. C'est intéressant, mais on reste avec un certain nombre de questionnements quand on est à ce niveau-là. Tu sais, si on veut imaginer un petit peu la chose. Donc, c'est quoi au niveau tempéramental qui joue le rôle le plus important dans cette association globale-là? Donc, on n'en est pas resté là, comme tu t'en doutes. On a fait un pas de plus, puis on a porté notre attention ensuite aux dimensions qui composent le facteur d'extraversion. Puis, cette étape supplémentaire-là, c'est à ça qu'on réfère quand on parle d'une approche plus raffinée ou une approche plus spécifique là, dans l'étude du tempérament, ce qu'on appelle en anglais un « fine-grain approach ». Mais nous a permis de constater que, parmi toutes les dimensions, dans le fond, qui font partie du facteur d'extraversion, c'était spécifiquement celle reliée à l'impulsivité puis à la prise de risque qui expliquait cette association-là. Donc, en termes de compréhension des phénomènes, on voit déjà le pas supplémentaire qu'on fait. En termes d'utilité clinique éventuelle, on voit aussi le pas supplémentaire qu'on fait. Fait que cette approche-là nous amène plus loin. Donc, oui, c'est exigeant au plan méthodologique parce qu'on a des questionnaires plus longs, il faut aller plus dans le détail. Bon, puis il faut peut-être sacrifier d'autres choses dans nos projets de recherche, mais au final, on obtient des informations qui sont beaucoup plus spécifiques, qui sont beaucoup plus utiles éventuellement. Mais pour aller plus loin maintenant, dans la compréhension du développement humain, dans la compréhension de comment les enfants s'adaptent sur le plan social puis au plan scolaire, il faut aller plus loin que ça, puis il faut vraiment aller jusqu'au niveau dimensionnel là, de façon systématique, puis voir là, c'est quoi exactement, quelles sont les dimensions spécifiques du tempérament qui sont impliquées par rapport à telle difficulté d'adaptation, par rapport à tel enjeu. Et c'est dans cette direction-là que nous, on oriente nos travaux. Et c'est dans cette direction-là aussi que s'en va le domaine de façon plus globale. Puis je pense qu'éventuellement, c'est porteur. Puis éventuellement, ça va nous amener à encore mieux comprendre comment le tempérament influence le développement humain.
Je t'écoute depuis tantôt. Puis dans le fond, quand tu me parles un peu du tempérament, ça me fait penser à la personnalité. Fait que je me demandais comment on diffère la personnalité et le tempérament.
Pendant longtemps, le tempérament et la personnalité, pour l'essentiel, là, ils ont été considérés comme des choses différentes, puis ont été étudiées en vase clos, puis en parallèle, si on veut. Plus récemment, on a cherché à mieux comprendre là, les liens entre le tempérament et la personnalité. C'est à l'effet que le tempérament et la personnalité sont reliés. Donc, il y a des liens entre les deux. Que le tempérament est en quelque sorte le fondement de la personnalité, si on veut, la base du développement de la personnalité. Donc ça, c'est ce que je dirais, ce qui est le plus consensuel actuellement. Je ne suis pas un expert de la personnalité, hein, je tiens à le préciser, mais quand même, le modèle théorique de la personnalité le plus influent, c'est celui qu'on appelle le modèle du Big Five, car il comporte cinq dimensions de la personnalité dite universelle, que sont, là, puis je les nomme rapidement, parce que, comme je l'ai mentionné, là, c'est moins mon domaine d'expertise, mais l'ouverture, la conscienciosité, l'extraversion, l'agréabilité et le neuroticisme. Puis ce que les études, en fait, montrent sur la question, c'est que trois de ces cinq grandes dimensions de la personnalité-là sont significativement associées à des éléments centraux du tempérament des enfants. Donc, j'ai fait référence tantôt aux trois grands facteurs tempéramentaux. Bon, bien, ces trois grands facteurs tempéramentaux-là, dans le fond, sont significativement associés dans les études à trois des cinq dimensions importantes du modèle de la personnalité du Big Five. C'est clair qu'on a des associations spécifiques qui sont bien documentées entre certains facteurs tempéramentaux puis certaines dimensions de la personnalité. Mais en même temps, ce ne sont pas des construits qui sont identiques. Je le répète, le tempérament, c'est vraiment un construit qui fait appel à la notion de prédisposition, une prédisposition de base, là. Puis la personnalité, c'est un construit plus vaste qui intègre des éléments qui lui sont spécifiques, qui lui sont propres, comme par exemple les pensées et les croyances, qui sont des éléments qui ont qui ont moins d'incidence ou de lien avec la notion de tempérament.
Dans le fond, tu parles un peu là, que le tempérament, il est déjà présent à la naissance, donc chez les bébés. Donc, est-ce qu'on peut dire que le tempérament, c'est comme l'aspect génétique de notre personnalité?
Je répondrais d'abord que, effectivement, les différences individuelles qu'on observe sur le plan du tempérament ont assurément une base biologique. Hein, ça fait partie de la définition. Puis, c'est quelque chose qui ne fait pas juste partie de la définition, c'est quelque chose qui a été aussi bien documenté sur le plan empirique, là. Donc, le tempérament reflète véritablement des traits qu'on appelle héritables, c'est-à-dire qu'on acquiert ces traits-là là, par nos parents, nos grands-parents. Donc, ce sont des traits qui courent dans les familles, là, pour prendre une vieille expression. Là. Puis ça, c'est clair. Il y a des études de jumeaux, par exemple, qui ont permis de confirmer cette base biologique-là du tempérament, là, dans le sens où, quand on examinait le tempérament des jumeaux identiques au plan génétique, puis qu'on examinait le tempérament des jumeaux non identiques, dits fraternels, bon, ce qu'on s'aperçoit dans ces études-là, c'est que les jumeaux identiques, leur tempérament se ressemble davantage que les jumeaux fraternels. Donc, puis alors comme ils sont génétiquement identiques et que les jumeaux non identiques, bien, c'est comme pour des frères et sœurs, on partage à peu près 50 % de nos gènes, mais ça indique qu'il y a vraiment une base biologique, là, un fondement biologique aux différences individuelles sur le plan du tempérament. Donc, c'est une certitude. C'est quelque chose qui ne fait pas l'objet de débat. Là. Je pense que tout le monde s'entend sur cette question-là. En même temps, on s'entend que le tempérament est présent dès la naissance, en fait. Puis, j'irais même jusqu'à faire un pas supplémentaire, juste affirmer qu'il est présent dès la période prénatale. Il y a des études qui ont pu, par exemple, identifier des différences individuelles sur le plan du niveau d'activité durant la grossesse. Donc, on a monitoré le mouvement là, des fœtus durant la grossesse, puis on a pu établir des différences en termes de niveau d'activité entre les enfants. Des différences qui étaient stables durant la grossesse. Là. Donc, tu sais, c'était vraiment quelque chose de robuste comme résultat. Puis ensuite, on a pu montrer que ces différences-là étaient associées à des évaluations du tempérament postnatal. Donc, clairement, il y a quelque chose de l'ordre du tempérament qui est mesurable, qui est perceptible, là, même durant la grossesse. Une fois que j'ai tout dit ça, pour répondre à ta question plus directement, je pense qu'on pourrait dire ça. Évidemment, on n'a plus dans la question précédente d'aborder le lien tempérament-personnalité. Donc, j'ai eu l'occasion de mentionner que le tempérament était les fondements sur lesquels la personnalité se développe, donc les bases du développement de la personnalité. Puis dans ce sens-là, oui, comme le tempérament est une prédisposition qui est biologique. Je pense qu'on pourrait répondre affirmativement à cette question-là.
Et comme c'est une prédisposition génétique, est-ce qu'on peut croire que ça reste plutôt stable au cours de la vie ou ça va changer?
Ça, c'est une question vraiment qui a été centrale dans l'étude du tempérament au cours des 15-20 dernières années. Il y a eu plusieurs études qui sont intéressées à la question de la stabilité ou de l'instabilité relative du tempérament. Je vais dire, pour commencer, que dans la compréhension moderne qu'on a du tempérament, qui a été influencée de façon très forte par une chercheure américaine qui s'appelle Mary Rothbart, okay, et ses proches collaborateurs. Donc, il y a beaucoup théorisé sur le tempérament, puis qui a mené plusieurs études empiriques sur le tempérament également. Donc, en suivant cette compréhension moderne-là, puis en s'appuyant sur l'état actuel des connaissances, dans le fond, tout ce qu'on peut voir dans la documentation scientifique sur la question de la stabilité, je pense que oui, on peut dire que le tempérament, c'est quelque chose de relativement stable. Donc ça, ce serait mon premier élément de réponse. Mais ce n'est pas non plus un construit qui est parfaitement stable. C'est un construit, c'est-à-dire c'est quelque chose qui peut évoluer, qui peut être modifié dans une certaine mesure, qui peut être modulé par... entre autres par les environnements dans lesquels on évolue là, au quotidien, puis par nos interactions sociales, etc. Donc, dans un premier temps, il y a des études sur la stabilité, justement, du tempérament qui montrent que quand on mesure le tempérament de façon répétée dans le temps, chez les mêmes individus, puis qu'on établit des corrélations là, très simples là, d'un temps de mesure à l'autre, bien, on voit que les corrélations sont significatives, évidemment, comme on peut s'y attendre, mais elles sont de l'ordre, en général, là, tout dépendant des dimensions puis de l'écart temporel entre les temps de mesure, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 au max. Donc, ça montre qu'il y a une stabilité, mais qu'elle n'est pas parfaite. On n'est pas dans les corrélations de 1 ou de 0.9. Puis, ça veut dire qu'il y a du mouvement là, sur le plan du tempérament là, qui évidemment, va au-delà de l'erreur de mesure. Il y a d'autres éléments aussi sur lesquels on peut s'appuyer là, pour prétendre que le tempérament est relativement stable, mais qui n'est pas complètement stable. Il y a des études plus récentes qui s'appuient sur des modèles d'analyse de trajectoire qui montrent qu'on est capable d'identifier certains groupes d'enfants, sous-groupes d'enfants, qui se ressemblent dans leur évolution tempéramentale. Là. Puis dans ces études-là, oui, il y a des groupes qui se définissent par la stabilité, hein, c'est-à-dire qu'ils vont toujours rester au même niveau de la dimension dans le temps. Mais il y a d'autres groupes qui vont soit monter ou diminuer dans le temps. Par exemple, il y a des études qui montrent qu'il y a des enfants qui vont montrer des niveaux croissants d'émotivité négative en vieillissant, alors que d'autres vont demeurer stables sur cette même dimension-là. Puis il y en a même d'autres qui vont montrer des niveaux décroissants d'émotivité négative. Tout ça pour dire que le tempérament aujourd'hui n'est plus vu comme il a été longtemps vu, comme quelque chose de fixé dans le temps, comme quelque chose sur lequel rien n'a d'influence, comme quelque chose sur lequel nous n'avons aucun pouvoir d'agir. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour déconstruire cette vieille vision-là ou cette vision passéiste-là du tempérament. Puis, on va avoir l'occasion de participer à cet effort-là lors du prochain congrès de l'ACFAS. Là, j'organise un colloque avec Elisabeth Harvey sur la notion de tempérament, en fait, sur le tempérament. Puis, on a un volet du colloque qui va chercher un petit peu à travailler sur ces conceptions modernes-là du tempérament, puis déconstruire justement les vieilles visions qui ne concordent plus avec les résultats de recherche contemporains. À l'opposé, je ne pense pas qu'il serait raisonnable d'imaginer ou d'envisager que le tempérament puisse passer d'un extrême à l'autre. C'est fait que ça, je pense qu'il faut être quand même très, très clair là-dessus. L'exemple que je prends souvent, c'est je ne pense pas que le plus grand des timides va devenir un jour le plus grand des extrovertis. Mais c'est plausible, très plausible d'imaginer que quelqu'un peut diminuer son niveau de timidité dans le temps puis devenir moins timide avec le temps parce qu'il a été exposé à des expériences qui ont favorisé ça, parce qu'il a été dans un milieu familial, par exemple, où on lui a permis de graduellement s'exposer puis de vivre des expériences positives, puis ça a comme un petit peu généré un changement. Donc, tout ça pour dire que c'est important de mentionner que l'environnement peut jouer un rôle clé à cet égard-là. La manière dont on va accompagner un enfant ou on va interagir avec lui peut permettre à cette personne-là de, avec le temps, moduler un peu ses prédispositions de base puis évoluer vers quelque chose qui est un peu différent, tout en étant évidemment bien réaliste. Si c'est une prédisposition fondamentale, on ne s'attend pas non plus à passer d'un extrême à l'autre. Donc, sur le plan de la recherche, je dirais, l'objectif maintenant, c'est de chercher à mieux comprendre justement c'est quoi les facteurs qui expliquent la stabilité ou l'instabilité du tempérament dans le temps. Parce que ça peut avoir des retombées pratiques importantes. À partir du moment où on sait qu'en agissant sur tel élément, on peut infléchir le tempérament dans telle direction, bien, on est en train là, de pouvoir éventuellement peut-être mieux considérer le tempérament dans l'intervention, dans les pratiques de prévention. Donc, mais au niveau fondamental, on a du chemin à faire, puis il faut continuer de mieux comprendre pourquoi que ça reste stable dans certains cas, pourquoi que ça augmente dans d'autres.
Comment est-ce qu'on peut mesurer le tempérament puis utiliser cette mesure-là dans la pratique?
Historiquement, on a mesuré le tempérament de trois façons. L'approche la plus populaire ou la plus fréquente, c'est l'approche par questionnaire. Donc, on a des questionnaires là, qui permettent à un parent, par exemple, ou à un éducateur, une éducatrice, une enseignante, d'évaluer le tempérament d'un enfant à partir d'un ensemble de questions, là, d'items. Donc ça, il y en existe plusieurs, là, des questionnaires sur le tempérament. C'est une approche qui a été longtemps remise en question parce que la critique principale, c'est de dire « c'est subjectif ». Tu sais, quand je te demande d'évaluer ton enfant avec un questionnaire, bon, ben, il y a de la subjectivité potentiellement qui rentre dans l'évaluation. Puis il y a plusieurs chercheurs dans le domaine qui ont longtemps critiqué ces mesures-là pour cette raison-là. Par contre, il y a des avantages, hein, c'est relativement bref. Donc, c'est peut-être un type d'outil qui peut s'utiliser mieux dans des contextes cliniques, dans les milieux de la pratique. Fait que c'est vraiment des mesures qui nous indiquent, sur une dimension donnée, est-ce que l'enfant a un score bas ou élevé. De la manière dont les questionnaires sont construits présentement, sur ce plan-là plus spécifiquement, c'est peut-être un petit peu plus difficile d'envisager d'utiliser ces mesures-là dans un contexte clinique, parce qu'on aurait besoin, à mon avis, là, d'avoir des scores qui nous indiquent à partir de quel niveau, par exemple, cette dimension-là peut être considérée comme un seuil, ça peut être considéré comme un seuil problématique. On n'a pas ça dans les questionnaires existants du tempérament pour le moment. Les deux autres façons, c'est des procédures observationnelles. Donc, on va exposer les enfants, par exemple, à des situations qui visent à susciter des dimensions tempéramentales, dans le fond, à stimuler des dimensions tempéramentales. Puis on va observer leur réaction. Donc, des cas qui me viennent à l'esprit ou des exemples qui me viennent à l'esprit, on va, par exemple, dans certaines tâches, mettre un jouet très attirant devant l'enfant, puis à un moment donné, on va le recouvrir d'une boîte, tu sais, en plexiglas, où l'enfant peut voir le jouet, mais ne peut pas le toucher puis le prendre. Puis bon, ça, c'est une tâche par laquelle on vise à voir les différences individuelles sur le plan de la prédisposition à la frustration, à la colère. Il y a des enfants qui vont être, comme on l'imagine, tolérants de la situation, puis il y en a d'autres qui vont choquer, qui vont vouloir prendre le jouet, qui vont s'offusquer, etc. Donc, d'autres tâches où on va, par exemple, temporairement limiter les mouvements physiques de l'enfant pour voir un peu comment ils vont réagir dans cette situation. Fait qu'il y a toutes sortes de tâches bien validées comme ça. Pour ces éléments-là, ça prend beaucoup de formation, ça prend de la standardisation, il faut vraiment appliquer ça de façon toujours systématique. Donc, c'est quelque chose qui est potentiellement un petit peu plus difficile à intégrer dans les milieux de pratique. Pas impossible, mais évidemment, ça vient avec plusieurs défis. Puis la troisième méthode, c'était vraiment d'utiliser des mesures psychophysiologiques pour mesurer la réactivité tempéramentale. Par exemple, la sécrétion de cortisol qu'on va utiliser parfois pour voir jusqu'à quel point un enfant a réagi dans une situation donnée. Le cortisol, c'est une hormone de stress. Donc, un enfant qui est très stressé par une situation va produire cette hormone-là, puis on va être capable de capter ça dans par exemple avec un coton-tige là, dans sa salive une fois que la tâche est terminée ou que l'exposition à l'événement c'est terminé. Le rythme cardiaque, par exemple, est un autre indicateur psychophysiologique qu'on veut utiliser dans certains contextes. C'est plus compliqué, évidemment, d'envisager d'utiliser ces méthodes-là dans des milieux de pratique, mais puis l'autre désavantage, c'est que ça demande des indicateurs généraux. Donc, c'est moins spécifique un peu. Le questionnaire va aller chercher vraiment chacune des dimensions spécifiquement. L'indicateur psychophysiologique, bien, c'est une mesure de réactivité un petit peu plus globale. On ne sait pas trop là-dedans. C'était-tu de la frustration? C'était-tu de la peur? On ne sait pas. À la base, il y a des avantages, des désavantages avec chacune des méthodes. C'est pour ça qu'on suggère beaucoup en recherche d'adopter une approche idéalement multimodale où on va mesurer le tempérament de deux ou trois manières différentes, puis on va essayer de faire concorder les données pour en tirer quelque chose d'encore plus complet, cohérent. L'autre volet de la question qui est comment ces mesures-là peuvent potentiellement s'utiliser dans les milieux de pratique, mais vous avez vu qu'il y a des avantages à chacun chacune aussi dans ces contextes-là. Mais il n'y en a pas, à mon avis, encore une qui est parfaitement adaptée au contexte clinique. Puis je pense que ça, c'est un défi auquel devront répondre les chercheurs du domaine dans les prochaines années.
Je t'amène un peu ailleurs, mais par quel processus ou mécanisme le tempérament va influencer le développement de l'enfant?
Il existe plusieurs manières dont le tempérament peut influencer le développement et l'adaptation scolaire et sociale des enfants. Donc, pour débuter, je dirais que parfois, une prédisposition tempéramentale très forte peut être suffisante en soi pour augmenter les probabilités de développer une difficulté ou une compétence aussi. Il faut le voir vraiment sur les deux pôles. Là. Le tempérament n'a pas que des effets négatifs. Hein. Comme on l'a vu, il y a des effets très positifs qui sont associés au tempérament ou à certaines des dimensions du tempérament. Des fois, juste d'avoir un très haut niveau d'un trait tempéramental, ça va nous mettre plus à risque de développer une problématique ou une difficulté particulière. Par exemple, dans les résultats les plus robustes là, qu'on peut recenser, c'était démontré que des hauts niveaux de peur, de crainte sociale, de timidité, ça prédispose à des difficultés de nature intériorisée, là, en particulier l'anxiété ou toutes les problématiques d'anxiété. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien documenté. Au contraire, des hauts niveaux de capacité attentionnelle, je référais tantôt à la capacité de soutenir son attention, à la capacité de switcher, pardonnez l'anglicisme, de switcher son attention sur quelque chose d'un peu plus plaisant, bien, ces capacités-là prédisposent à une adaptation scolaire qui est plus positive. Donc, les enfants qui ont des hauts niveaux de capacité attentionnelle, en général, ce sont des enfants qui s'adaptent bien à l'école puis qui réussissent bien à l'école. Il y a d'autres formes de mécanismes là, possibles qu'on observe dans les études. Par exemple, des études ont montré que l'émotivité négative avait souvent pour impact d'influencer les pratiques des parents. L'influence, c'est que ça va augmenter les probabilités que les parents, dans le fond, réagissent de façon plus hostile, de façon plus coercitive, de façon plus négative. Ce qui influence la probabilité chez l'enfant de développer, par exemple, des problèmes de comportement de nature extériorisée, là, comme par exemple de l'agressivité, de l'opposition. Fait que c'est comme si, là, dans ce cas de figure-là, le tempérament influence le développement, mais indirectement, il l'influence parce qu'il influence les pratiques des parents qui, elles, vont éventuellement mener jusqu'à des problèmes particuliers. Donc, dans un article que je prépare actuellement avec quelques collègues du GRIS, dont Danica Thériault, on démontre au sein d'un échantillon d'adolescents que les expériences de maltraitance vécues depuis la naissance influencent le tempérament des adolescents, puis que le tempérament des adolescents, dans la suite, explique les différences qu'on observe au niveau des problèmes de comportement intériorisés et extériorisés. Donc, dans cet exemple-là additionnel, on voit que le tempérament est souvent impliqué dans une chaîne d'effets en séquence qui mène à des différences notables dans la qualité du développement et de l'adaptation des personnes. Donc, il y a les effets directs, il y a les effets indirects. Puis, le troisième mécanisme par lequel le tempérament peut jouer un rôle, c'est le suivant. Donc, le tempérament joue parfois un rôle dans la manière dont un facteur de risque spécifique influence le développement humain ou encore va voir son influence sur le développement humain dépendre de la présence d'un autre facteur ou d'un facteur de l'environnement. C'est ce qu'on appelle les effets modérateurs. Donc, les effets modérateurs du tempérament sur l'environnement ou encore les effets modérateurs de l'environnement sur le tempérament. Dans une deuxième étude qu'on a menée dans le cadre de la thèse de doctorat d'Elisabeth Harvey, on a montré que la qualité de la relation élève-enseignant venait nuancer la manière dont le tempérament influence le développement de problèmes de comportement. Un niveau élevé d'émotivité négative, par exemple, était associé à plus de problèmes intériorisés, mais seulement pour les enfants qui avaient plus de conflits avec leur enseignante ou qui en étaient plus dépendants. Ce sont quelques exemples qui montrent que, dans le fond, le tempérament peut influencer le développement humain vraiment via plusieurs processus ou mécanismes différents. Puis là, notre défi en tant que chercheur, c'est vraiment d'identifier les processus qui sont impliqués dans le cas d'une dimension spécifique du tempérament ou dans le cas d'une difficulté d'adaptation spécifique. Donc, parce que pour pouvoir faire avancer évidemment davantage la recherche, mais aussi mieux informer la pratique éventuellement, c'est ce qu'on aura à réaliser, là. C'est vraiment un focus sur les processus développementaux, là, dans le fond, comment ça fonctionne, l'impact de ce tempérament-là dans le développement de l'enfant et de l'individu.
Finalement, j'ai une dernière petite question pour toi. Donc, est-ce qu'on devrait s'intéresser davantage au tempérament dans l'intervention auprès des jeunes?
Il y a plusieurs raisons, selon moi, qui militent en ce sens. D'abord, comme on l'a vu dans les échanges précédents, le tempérament joue souvent un rôle important dans le développement. Hein, on a vu que le tempérament est associé à plusieurs issues développementales, à plusieurs éléments de l'adaptation scolaire et sociale. Non seulement dans le développement, mais dans le maintien aussi, dans certains cas, de ces difficultés-là. Donc c'est important à mentionner. Donc c'est souvent un facteur de risque important pour plusieurs problématiques, mais c'est aussi parfois un facteur de promotion ou de protection. Fait que c'est vraiment intéressant de s'intéresser de plus près au tempérament dans cette perspective-là, en lien avec éventuellement les stratégies de prévention ou d'intervention. D'autres éléments qui m'amènent à penser que il faut aller dans cette direction-là, ça concerne des résultats d'études récentes qui soutiennent des hypothèses de sensibilité différentielle à l'intervention et de sensibilité différentielle impliquant le tempérament. Donc, ce que ces études-là montrent, c'est qu'il semble que dans certains cas, du moins, certains enfants, de par leur tempérament, seraient plus sensibles aux influences environnementales, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc, c'est comme s'il y a des enfants qui seraient, de par leur tempérament, un peu plus imperméables aux influences environnementales, alors que d'autres seraient très, très perméables. Donc, s'ils sont exposés à un environnement qui est très favorable, bien, ça va avoir beaucoup de bénéfices, ça va produire beaucoup de bénéfices. Si on est exposé à un environnement plus défavorable, ça va avoir beaucoup de conséquences plus négatives. ça va être éventuellement souhaitable de pouvoir identifier les personnes pour qui une intervention est plus susceptible d'avoir de l'impact. Puis la prise en compte du tempérament pourrait éventuellement aider en ce sens-là. Une des orientations plus intéressantes à court terme et donc à privilégier pour le moment, de mon point de vue, c'est le développement et l'utilisation d'approches préventives ou de stratégies d'intervention qui s'appuient sur les différences tempéramentales. Donc, dans le cas de ces stratégies-là, l'idée, c'est pas de chercher à changer le tempérament des enfants et des adultes, mais c'est plutôt de s'appuyer sur ces différences-là ou d'utiliser ces différences-là pour faciliter l'adaptation des personnes puis des individus. Un excellent exemple qui existe dans cette voie-là, qui existe déjà, je parle ici du programme Provin Insights Intervention, qui a été développé aux États-Unis par la professeure Sandy McClory, qui vise les enfants d'âge préscolaire. Ce programme-là vise à prévenir, comme bien d'autres, le développement des difficultés sociales et scolaires, mais sa particularité, c'est qu'il vise à prévenir le développement de ces difficultés-là en s'appuyant sur le tempérament, donc en utilisant des profils tempéramentaux qui sont bien connus. C'est la particularité de ce programme-là. Donc, l'objectif général, c'est vraiment, par exemple, d'aider les enfants à comprendre leur propre tempérament, ses forces, ses défis, à bien reconnaître le tempérament des autres enfants dans le but d'interagir de façon encore plus optimale et idéale avec eux. Le programme comprend aussi des composantes qui s'adressent aux parents puis aux personnes éducatrices et enseignantes, mais c'est toujours le même esprit, c'est-à-dire voici, si l'enfant présente tel profil tempéramental, voici comment vous devriez interagir avec lui ou elle, voici comment c'est plus indiqué de procéder, etc. Donc, le programme met de l'avant la notion de ce qu'on appelle, nous, la notion de degré d'ajustement. Là. Donc, s'assurer qu'il y a une bonne adéquation entre les caractéristiques des enfants puis l'environnement dans lequel ils évoluent. Ce qui est intéressant à dire en terminant là-dessus, c'est qu'Elisabeth Harvey et moi, on vient tout juste d'obtenir un financement pour valider ce programme-là auprès d'une population francophone ici au Canada en contexte minoritaire, donc en Nouvelle-Écosse. Puis au cours des prochaines années, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment mieux faire connaître ce programme-là au Québec, puis ailleurs au Canada, puis à favoriser son utilisation, dans le fond, son implantation dans les milieux de pratique. Donc, on va s'affairer à cette tâche-là aussi au cours des prochaines années.
Merci beaucoup, Jean-Pascal, d'être venu discuter avec nous aujourd'hui. Je suis sûre que ça a éclairé plusieurs personnes là, sur le concept du tempérament. Pour en apprendre plus sur la programmation de recherche de Jean-Pascal Lemelin, vous pouvez suivre le lien vers son profil sur le site du GRIS dans la description de l'épisode. Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de recherche du GRIS, rendez-vous sur notre site web au www.gris.ca. À l'animation, Lauriane Hébert. À la recherche et à la production, Sonia Anvar. Et à l'enregistrement, le studio Balado du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.